France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Sa voix et sa petite pointe d'accent québécois gardée malgré les années passées en France nous accompagnent depuis tellement longtemps. Si nous avons tous pu à un moment nous passionner pour l'univers et les galaxies, c'est un peu grâce à lui, le grand vulgarisateur, celui qui nous a montré les planètes depuis tout petit. Il le fera encore ce soir si vous lui demandez. Peut-être qu'il a lui pu observer d'ailleurs, tiens, la petite tache de Mercure sur le soleil aujourd'hui derrière les paquets de grisaille. Mais Hubert Reeves vit avec son temps. Il regarde moins l'infiniment loin. Il est tout autant capable de regarder désormais l'infiniment grave, définitivement sous nos pieds. L'avenir de la planète, l'avenir de la biodiversité, mise à mal par nous, mais réparable, dit-il, par nous aussi. C'est un optimisme. Optimiste Hubert Reeves, laissez-vous conforter par sa vision du monde ou venez le contredire, c'est comme vous voulez, c'est le principe du téléphone sonne. En tout cas, on vous remercie chaleureusement Hubert Reeves de venir répondre aux questions du téléphone sonne ce soir.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et c'est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on commence avec vous Patrick, bonsoir, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour, eh bien, bonjour France Inter, puis bonjour à Hubert Reeves.
Bonjour,
voilà,
monsieur.
Je partage
bonjour.
Un petit peu les mêmes choses que lui, l'astronomie sûrement, et puis aussi les petites plantes, j'aimais bien quand il parlait un jour des cymbalaires, des murailles, une petite fleur toute jolie, une petite plante toute jolie.
Oui,
et voilà ma question pour l'instant. Je regarde, des fois, moi j'aime bien regarder le ciel profond comme ça, et puis j'aime bien voir Andromède, la galaxie d'Andromède. Et puis j'ai vu qu'il y avait dans cette galaxie, on dit qu'il y a jusqu'à 1000 milliards d'étoiles et puis d'autres chiffres me donnent des fois 300 milliards d'étoiles. Alors je voulais savoir, moi j'ai un peu du mal à les compter, je voulais savoir si Hubert Reeves pouvait me donner un chiffre à peu près possible.
Merci Patrick, voilà. Parce que vous les avez comptés vous Hubert Reeves.
Vous avez donné les deux limites, c'est quelque part entre 300 et 1000. C'est mal connu, c'est difficile d'évaluer la masse d'Andromède, c'est pas du tout simple.
Donc c'est une fourchette en fait.
Oui,
en
c'est
fait,
plutôt c'est une fourchette. Oui, on trouve les deux valeurs.
Et c'est marrant Patrick, pourquoi vous vous intéressez très spécifiquement à cette chose-là, et à Andromède spécifiquement?
Parce que si c'est une petite tâche qu'on arrive, on dit que c'est la chose la plus lointaine qu'un œil humain arrive à regarder.
C'est vrai.
On arrive en effet à la regarder. Moi, je la vois un peu de moins en moins parce que j'ai quand même 72 ans bientôt. Donc, ma vue baisse un peu. Mais donc, avec des jumelles, une fois que j'aime bien la regarder, quoi. Je me dis qu'il y a 1000 milliards de choses qu'on regarde dans une petite tâche comme ça. C'est absolument, ça me donne le vertige. je regarde ça, voilà.
Mais oui, c'est vrai que c'est impressionnant, Andromède.
Et alors, où est-ce qu'on, pardon de le dire comme ça, mais à l'œil nu, c'est où, en fait, ça se voit comment?
Ben, il faut connaître le ciel.
Alors,
c'est près de Cassiopée. On la retrouve parce qu'elle est près de certaines constellations, en particulier du W Cassiopée, mais il faut savoir.
Ah, ben voilà,
où elle
le W, tout le monde voit à peu près où est le W, où est la casserole. On a une vague idée, c'est un peu
ah,
des.
Ah, c'est. Non, ça c'est assez facile. Les constellations, si on s'y met, ça prend du temps. Mais elle est proche du W. Et si, surtout si vous avez un enfant qui est passionné d'astronomie, il va vous indiquer ça tout de suite. Il va vous dire, comment tu la vois pas? C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est l'élément qu'on voit à l'œil nu le plus loin.
Et ça vous fascine toujours, vous, Hubert Reeves, qui avez vu ça des centaines de fois, qui avez répondu à ce genre de questions, des centaines de fois aussi. Est-ce que parfois, quand vous relevez la tête, y compris vers Andromède, aussi basiquement ça, vous vous dites quand même, toujours aujourd'hui ou pas?
Oui, ça me fait toujours un effet. Il y a comme une impression qui vous rentre dedans, c'est pas contrôlable. Et moi, oui, ça met dans un état un peu, je dirais, comment dire, méditatif, je dirais, c'est le bon mot. Ça vous plonge dans une espèce de méditation, oui.
Vous l'avez encore, la petite plante dont parlait Patrick? Il faisait allusion à une petite plante dont vous avez parlé, que vous avez chez vous, visiblement. La petite plante verte.
Oui. Attendez, je ne sais pas.
Ouais, moi non plus, Patrick, vous parlez de quelle plante?
Est-ce que c'est le ginkgo?
Non, c'est des cymbalaires des murailles.
Ah, vous parlez de la linéaire cymbalaire. Ah, bien sûr. Oui, on en voit sur tous les vieux murs. Tous les châteaux, les vieux murs. Là. C'est très joli. C'est une plante qui grimpe au mur, qui a une couleur vraiment magnifique, toute petite, mais c'est très impressionnant.
Tiens, avant de passer à tout à fait autre chose, puisqu'on est dans les étoiles, etc., Hubert Reeves, vous avez regardé Mercure aujourd'hui ou pas?
Non, c'est pas visible à l'œil nu.
Alors voilà, alors non, mais est-ce que vous avez peut-être connaissez des gens qui ont des appareils?
Oui,
est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller regarder, d'aller chercher ce petit point ou pas?
Non, j'en ai vu de nombreuses fois. Là, il n'y a rien de vraiment impressionnant. C'est le passage de Mercure devant le Soleil. C'était à 11h, je pense, ou à midi.
Oui, vers 13h dans ces eaux-là.
Non. Oui, puis c'est comme c'était passablement nuageux aujourd'hui. Je ne suis pas certain que beaucoup de personnes l'ont vu.
Allez, on va passer à tout à fait autre chose. Bonsoir Patrice, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir à tous.
Allez-y.
Bonsoir à M. Reeves, que j'admire énormément.
Merci monsieur, bonsoir à vous.
Merci. Vous avez été longtemps, je crois que vous êtes toujours un antinucléaire avéré. Je voulais savoir quelles sont les perspectives que vous envisagez en matière de production d'énergie propre et énergie solaire, énergie lunaire, paraît-il, parce qu'on pourrait peut-être utiliser la Lune pour éventuellement plus tard la fusion nucléaire qui serait peut-être autre chose. Mais en ce qui concerne globalement la recherche scientifique, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le public n'est pas assez informé sur les interactions vénéneuses qui existent entre les lobbies et le pouvoir politique, et qui
peut-être
finalement sont un frein au développement, à la recherche sur les énergies nouvelles, quand on voit les sommes astronomiques pour l'EPR ou le projet CIGEO d'enfouissement?
Oui, c'est impressionnant.
Est-ce que c'est pas quelque chose de terrifiant quelque part?
Oui, mais tout le monde veut avoir de l'eau chaude dans sa baignoire le matin. C'est ça, ça se paye. Ça se paye. La façon la plus raisonnable serait le solaire, mais pour l'instant, on n'a pas la capacité de capturer suffisamment d'énergie solaire pour tout le monde.
Vous êtes toujours un anti-nucléaire, Hubert Reeves, ou pas?
Je pense que le nucléaire, j'aime à dire, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Mais ça ne veut pas dire demain. Parce que si aujourd'hui on arrêtait les réacteurs nucléaires, il n'y aurait que de l'eau froide dans les baignoires. Mais je pense que le problème du nucléaire, c'est que quand j'étais étudiant aux États-Unis, j'étais un ardent défenseur. Mm-hmm. On était très fiers de travailler dans ce domaine.
Vous avez bougé sur ces questions-là. Ouais.
Et on disait c'est la fin de la pauvreté, l'énergie gratuite. Mais il y avait un petit problème, c'est qu'il y avait les déchets. Mais on disait, on va s'en débarrasser, on va bien trouver quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose. Et puis, il y a eu aussi Tchernobyl et Fukushima. Et bien sûr, ça, c'est des avertissements que le nucléaire, c'est pas pour les humains. C'est une technique pour les anges, pour des gens parfaits qui ne prennent jamais congé avant le temps, qui sont, les humains sont facilement brouillons. Donc, il faut prévoir ça. Tous les accidents qu'il y a eu jusqu'ici du nucléaire, c'est des accidents de personnes, de humaines. Et donc, sachant...
Fukushima, c'est un tsunami. Donc.
Oui, mais non. L'erreur, c'est pas le tsunami. C'est d'avoir mis des réacteurs nucléaires un pays qui est un des plus fragiles au problème terrestre. On a mis là des réacteurs au bord de la mer et puis on a mis une petite muraille de 3 mètres de haut. Le tsunami, il a fait une vague de 15 mètres, vous l'avez probablement vu à la télévision. C'était le problème fondamental, c'est le conflit entre la sécurité et le profit. La sécurité et le profit ne font pas bon ménage.
Est-ce que vous disiez donc on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour tous nous chauffer, remplir vos baignoires, parce que j'ai appris en vous lisant que vous preniez des bains. Est-ce que ça veut dire qu'il faut donc, comment on fait en fait? Est-ce qu'on va assez vite pour aller chercher ces énergies renouvelables? Est-ce que selon vous on pourrait aller plus vite? Notre auditeur parlait des questions des lobbies et de toutes ces questions-là. Vous pensez qu'il y a des freins ou qu'on avance à la vitesse qui est celle de nos connaissances sur toutes ces questions-là?
Je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu l'idée fondamentale qui manque, moi je pense, c'est d'investir beaucoup dans des petites éoliennes, moyennes éoliennes. Et ça, c'est trop cher pour le public, pour les gens en général. Donc quand le gouvernement avait décidé, comme en Allemagne, de donner des subventions pour que les gens puissent installer leur propre petite centrale solaire, c'était la bonne solution. Mais malheureusement, ça a commencé, ça a été une catastrophe, ça a été coupé. Et aujourd'hui, c'est ça qui a ralenti la récupération de l'énergie nucléaire. Il faudrait vraiment une campagne genre Manhattan, dans laquelle on investit, ou le plan Marshall, dans laquelle on donne donnerait aux gens de l'argent pour pouvoir investir eux-mêmes dans. C'est ça, moi, que je trouve qui est dommage. Ça serait la façon d'accélérer. Parce que le problème, c'est qu'on reçoit 10 000 fois plus d'énergie du soleil que ce dont nous avons besoin à l'échelle mondiale. 10 000 fois, on dirait que c'est beaucoup. Mm-hmm. Mais avec notre capacité de récupérer, c'est trop aujourd'hui pour tout le monde. Donc, il y a une course en avant. Je ne sais pas si on va réussir. Je ne sais pas si on va réussir cette réintégration de l'énergie, mais je pense que la meilleure façon, ce serait d'aller vers la seule source qui est sûre, qui est développée, mais qui, pour l'instant, demande des breakthroughs techniques. C'est des problèmes techniques qui se posent.
Il y a notre auditeur nous parlait d'énergie lunaire aussi. Il y a toujours eu cette espèce de fantasme qu'on allait pouvoir trouver des énergies sur la Lune et au-delà. Est-ce que c'est une réalité,
ça? Non, ce qu'il y a, c'est que sur la Lune, il y a un isotope de l'hélium, qui est l'hélium-3, qui vient du Soleil, qui est dans le vent solaire. Et on se dit, on pourrait récupérer, et ce serait une autre source d'énergie nucléaire, un peu comme ITER, qui utilise de l'hélium-4. Il y a un autre isotope qui est qui est très abondant. Et là aussi, il y a un problème de, oui, mais est-ce qu'on est capable de, quelle serait la note à votre note d'électricité, si venait de la Lune, c'est-à-dire l'hélium 3, ce serait probablement impayable. Mais ça aussi, ça peut se développer. Moi, je crois que ça, c'est beaucoup moins vraisemblable. Là, il y a un petit peu de fantaisie autour de l'hélium 3. Ça m'a toujours paru.
Et de fantasmes, peut-être, autour de ces choses-là. En parlant de fantasmes, peut-être, ou pas, d'ailleurs, voici la question de David. Écoutez-le. Bonsoir, David.
Oui, allô, bonsoir, France Inter.
On vous écoute, David.
Oui, c'est un vrai bonheur, un honneur de pouvoir s'adresser à Hubert Reeves.
Merci, monsieur, je vous en prie, merci pour
vos émissions France Inter. Voilà, je souhaitais avoir l'opinion d'Hubert Reeves sur la théorie avérée ou non de la collapsologie, à savoir nous viendrons à subir dans un futur plus ou moins proche un quelconque effondrement, qu'il soit d'ordre climatique ou économique, si nous disposons des outils à l'heure d'aujourd'hui pour passer outre.
Merci pour votre question, David. Allez-y, Hubert Reeves. Êtes-vous collapsologue?
Je dois vous dire, personne ne connaît l'avenir. Les gens qui disent qu'on va faire une catastrophe, ils prétendent connaître l'avenir. Il y a en ce moment un double mouvement. Il y a un mouvement de détérioration de la planète. On augmente la quantité de gaz carbonique qu'on émet, mais en même temps, il y a un très fort développement de restauration de la planète. J'apprenais aujourd'hui qu'il y a un nombre d'animaux. Par exemple, on était sûr que les baleines allaient disparaître. On vient de les sortir de la liste des animaux.
Abos, que je sache. Abos.
Exactement, oui. Donc, on est dans un conflit mmh. entre deux forces. Une force de restauration qui se développe très vite, et avec, on le voit un peu partout, des initiatives dans les villes et tout ça. Il faut voir la situation comme une situation de préparation, je dirais, à une guerre. Il faut être dans cette optique de dire, il faut gagner. Il faut avoir un objectif qui est simple, garder la planète habitable et agréable.
Mais qu'est-ce qui va le plus rapidement aujourd'hui, selon vous, Hubert Reeves? Est-ce que c'est la partie destruction ou la partie reconstruction?
C'est très difficile à dire. La partie destruction continue, mais s'accélère moins que la partie restauration, qui, elle, dans les 5 dernières années, c'est déjà considérable ce qui se fait. L'important, c'est d'être dynamique, c'est d'être dans une attitude, on va gagner. Si on dit, c'est foutu, c'est foutu. Quand on dit, oh, il y a rien à faire, ben, il y a rien à faire.
Il y en a qui nous promettent la fin du monde en 2030, donc, effectivement,
oui. Les gens prétendent connaître le futur, personne. Les êtres humains sont particulièrement maladroits quand il s'agit de prévoir l'avenir. Je me souviens d'une liste, en 1900, on a fait une enquête, on a demandé comment vous voyez l'an 2000. Mm-hmm. Eh bien, quand vous nous regardez, vous voyez que les humains sont vraiment nuls pour prévoir l'avenir. Moi, je compte là-dessus. L'avenir est inconnu. L'avenir dépend de ce qu'on va faire, des décisions qu'on va prendre. Aujourd'hui, on prend de plus en plus de décisions. Il y a de plus en plus de choses qui se font. Est-ce que c'est suffisant? Je ne le sais pas.
Et du coup,
je ne connais pas l'avenir.
Et du coup, Hubert Reeves, puisque effectivement, il y a une course entre ce qui est détruit et ce qui est en train d'être reconstruit, il y a aussi beaucoup de groupes aujourd'hui, notamment des groupes jeunes. Je pense à Extinction Rebellion, mais pas seulement, qui ont décidé d'avoir un mode d'activisme qui est très différent de celui qu'on pouvait avoir autrefois. Parfois, on le fait par des blocages notamment. Faut-il passer par ce genre de manifestation-là? Est-ce que ça vous semble utile, ce genre de blocage, pour que la conscience monte ou pas?
Je ne sais pas vous répondre. Je me pose cette question aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Certainement, la violence, non. La violence, c'est exclu, ça, c'est le moyen de tout rater. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut laisser à l'initiative.
Les rébellions ne sont pas violents, ils sont juste, ils se posent quelque part, ils n'en bougent plus. En tout cas, pour ce qu'on en a vu pour l'instant.
Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Madame Greta Thunberg, je trouve ça très bien. Que des enfants disent, vous nous ratez notre avenir pour votre profit. C'est vrai. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut pousser pour que les gens aient des attitudes dynamiques. Moi, je pense à la veillée d'armes, vous savez. Uh-huh. Au Moyen-Âge, les gens se réunissaient avant un combat. On est dans un état comme ça. On est dans un état où on est menacé. C'est vrai que les menaces sont graves. C'est vrai que ça pourrait mal aller. C'est faux de dire que ça va nécessairement mal aller avec ce qu'on sait, à condition qu'on ait cette attitude dynamique. Et oui, c'est ça.
Et est-ce qu'il faudrait être coercitif, selon vous, Hubert Reeves? C'est-à-dire dire à partir de demain, eh ben, il n'y aura plus qu'un aller-retour en avion par an, par exemple. Ou que si on en a besoin. Ou alors, certaines personnes, puisqu'on sait aussi que ce sont les plus riches qui polluent le plus, puisqu'ils prennent plus l'avion notamment, et d'autres choses de ce genre-là, eh ben, il faut restreindre à certaines personnes. Est-ce qu'il faut être coercitif?
Moi, je crois pas. Je crois que la coercition, généralement, et c'est déjà le cas, beaucoup de lycéens nous disent, vous nous donnez des leçons, il faut amener les gens à être convaincu qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Mmh. Mais les méthodes coercitives, ça n'a jamais rien donné.
Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Gilles.
Merci. Bonsoir Hubert.
Bonsoir monsieur.
Je vous appelais, vous le savez probablement, Stephen Hawking, assez récemment avant sa mort, avait écrit que l'humanité avait 600 ans pour quitter la Terre. Moi je suis, je vous entends optimiste ou un peu. Je suis un peu moins que vous, et quelle est votre opinion profonde là-dessus? Vous êtes d'accord avec lui?
Non, pas du tout.
Évidemment, ça paraît un peu utopique. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'une part, c'est utopique parce que les planètes, les autres planètes, c'est loin. On en a pour 60 000 ans pour les rejoindre. Mais le plus important, c'est que si, imaginons que nous pouvons nous établir sur une planète. Si on n'a pas amélioré notre comportement, on va faire la même chose. L'important, c'est nous d'apprendre à vivre avec notre puissance. Le problème, c'est que nous sommes extrêmement puissants. L'être humain est quelque chose d'énorme, quelque chose qui peut le meilleur et le pire, quelque chose qui peut développer des bombes atomiques, mais qui peut aussi développer des hôpitaux. Il faut que nous apprenions à vivre avec notre puissance, et ça, on est très mal foutus. On est capable de nous ravager nous-mêmes. L'exemple qu'il faut garder, c'est la guerre froide. La guerre froide, c'est exactement typique. Les bombes atomiques, c'est nous qui les avons fait. La nature ne fait pas de bombes atomiques. Mm-hmm. Les bombes atomiques, nous sommes venus à un point où nous sommes venus à deux doigts à plusieurs reprises. On ne sait pas très bien comment on a réussi à ne pas se détruire, mais nous restons avec ça. Nous sommes une espèce qui, par rapport à sa puissance, a l'air d'avoir des problèmes d'exister, de coexister avec sa puissance et de ne pas s'éliminer. C'est ça notre problème. Nous devons apprendre à vivre avec notre puissance, c'est-à-dire à vivre en harmonie avec la nature. Moi, j'aime beaucoup prendre comme comparaison les tortues. Les tortues existent depuis 200 millions d'années. Les tortues vivent dans un équilibre avec leur écosystème et ne sont pas menacées par quoi que ce soit, sauf nous. Mmh. Eh bien, ces tortues, on peut leur dire, regardez, dites-nous quoi faire. Nous sommes ici depuis 3 millions d'années à peu près, et nous sommes déjà dans le collimateur de la sixième extinction. Comment vous avez fait, vous, pour vivre 200 millions d'années et résister et ne pas vous détruire?
Et c'est pour ça que c'est intéressant la question de Gilles au fond, parce que c'est aussi celle de Louis sur franceinter.fr qui parle de l'exploration spatiale, voire la colonisation d'autres planètes, cette espèce de fantasme qui dit que de toute façon c'est à la fois terriblement pessimiste et aussi finalement optimiste de dire à la fois bon, c'est pas grave si on fout la Terre en l'air parce que de toute façon on va pouvoir trouver d'autres choses. Est-ce que tout ça ne relève pas évidemment du pur fantasme? Et du coup ce que j'ai envie de vous demander c'est qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui nous promettent de toute façon les voyages spatiaux pour des sommes absolument colossales, etc. Franchement, est-ce que ça sert à quelque chose de... Est-ce que c'est pas joué aussi, ça, à votre avis?
Moi, je pense qu'il faut pas arrêter de vivre. Il faut pas, au nom de la difficulté qu'il y a, cesser de vivre, prendre l'avion quand c'est nécessaire. On va pas tous rester chez nous simplement à ne rien faire. Donc, il faut se servir de sa tête. Si vous avez un voyage à faire... Si c'est un voyage important, si c'est un voyage qui peut se justifier, oui. Si c'est pour aller faire vos courses à New York, non. Mais ça, il faut pas qu'on l'impose aux gens. Il faut qu'on amène la conscience de ce qui se passe, de la gravité de la situation. Et à ce moment-là, on peut envisager l'avenir.
Et vous êtes un optimiste, encore une fois, pour penser que... Et pourquoi pas que le monde entier, effectivement, suivra ce chemin-là. Tiens, voici un tout jeune homme qui nous appelle. Bonsoir Pierre-Julien.
Bonsoir.
Salut à toi, on t'écoute.
Bonsoir monsieur, j'ai bonsoir. 9 ans. Et je voudrais vous poser une question. À quoi ressemble une galaxie massive?
Une galaxie massive, ça ressemble à la nôtre. Ben, il y en a de toutes sortes. Il y a des galaxies massives qui sont elliptiques, donc ils ont l'air d'un gros nuage, tout simplement. Et puis, il y a les spirales, ben, qui sont évidemment, qu'on voit partout, même dans la publicité. Maintenant, on publie la photo d'Andromède partout. Oui. Et puis, il y en a qui n'ont pas de forme, qui sont anormales. Les galaxies, il y en a au moins 100 milliards. 100 milliards de galaxies contenant autour de 100 milliards d'étoiles. Ça, c'est la révélation qui est venue avec monsieur Hubble de la dimension gigantesque de l'univers. C'est lui qui nous a fait prendre conscience.
Et qui s'étend constamment, en fait. Ça, moi, je l'ai appris grâce à vous, en fait. C'est qui est en expansion. Mais alors, comme dirait Sarah qui travaille avec nous, si l'univers est en expansion continuellement, mais il n'y a aucune chance pour qu'on rencontre un jour une autre forme de vie, finalement. Ah non, à chaque fois, elle s'éloigne de nous.
Oui, mais...
On va la rattraper.
La lumière voyage beaucoup plus vite que les galaxies. Et la lumière, c'est ce qui nous permet de communiquer avec nos auditeurs, faire des ondes électromagnétiques. Et donc, non, ça, je crois que c'est pas un problème.
Ce qui est fou quand on vous écoute, Hubert Reeves, c'est que vous avez évidemment une longue carrière derrière vous, et au fond, là vous citiez Hubble, c'est encore autre chose, mais au fond, au cours de votre carrière, vous avez vu, vous, des problèmes se solutionner. Et c'est ça qui est formidable, en fait, de se dire que quand vous étiez jeune chercheur, vous cherchiez des choses, aujourd'hui on les a, toutes ces réponses-là.
On a acquis beaucoup de réponses depuis, c'est surtout autour de 1920-1930, quand on a commencé à faire des télescopes importants, et maintenant, avec tous les télescopes, les ondes gravitationnelles qu'on vient de détecter, c'est une grande nouvelle.
Est-ce que c'est pas fascinant, ça? Et au fond, très optimiste, de se dire que ce qu'on cherche aussi, on parlait de réchauffement climatique à l'instant, ce qu'on cherche en ce moment, mais peut-être qu'on va le trouver, finalement. Il suffit d'une génération, regardez, de chercheurs comme vous, en fait,
oui,
non?
Oui, oui, puis on trouve régulièrement des choses fantastiques, les bosons de Higgs, toutes ces choses-là qu'on supposait exister. Vous voyez, l'esprit humain est extrêmement pénétrant de la nature par sa capacité de pensée abstraite. On avait imaginé qu'il existait une particule très particulière, si on peut le dire, et on a bâti le CERN, enfin on a utilisé l'accélérateur du CERN, et on l'a trouvé justement avec ses propriétés. On a fait des télescopes pour les ondes gravitationnelles, on en a détecté. Encore une fois, moi je suis très admiratif de l'être humain, je ne comprends pas comment il peut être à ce point intelligent, capable de comprendre la réalité, mais en même temps très dangereux, parce qu'incapable de gérer sa puissance, justement. Ça c'est le thème principal.
Bon, et on y revient, on détruit en même temps qu'on reconstruit au même moment. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Julien.
Bonsoir monsieur.
Merci. Bonsoir, j'avais Une question pour revenir peut-être au propos que vous teniez tout à l'heure, qui est extrêmement intéressant sur la transition que nous vivons actuellement sur le nucléaire et le potentiel qu'il y a sur Terre pour l'exploitation de l'énergie solaire. Cela fait écho également au stockage que nous ferons de l'énergie. Par exemple, dans les foyers, nous consommons l'énergie le soir, au moment où le soleil a arrêté de nous la fournir, et donc une stratégie de territoire qui utiliserait cette énergie mobiliserait également beaucoup de stockage d'énergie. Et aujourd'hui, donc, un nombre de batteries assez conséquent, donc on commence à retrouver dans notre quotidien, dans tous les objets, et le multiplier dans les foyers et dans les véhicules pose des questions à la fois sur l'impact de l'exploitation des terres, et également sur la gestion de ces déchets, batteries. Voilà, je voulais un peu avoir votre vision là-dessus, sur ce stockage de l'énergie qui permettrait petit à petit de nous défaire d'autres énergies peut-être un peu plus polluantes.
Merci beaucoup, Julien. Donc les terres rares et aussi le stockage de ces batteries. Est-ce qu'on
oui.
pour l'instant,
alors,
on manque
de solutions. Le stockage des batteries, c'est un problème qui existe depuis le début. On sait faire de l'énergie, mais la stocker, c'est très difficile. On développe des moyens, et je pense que ça, c'est un problème d'engineering. Il y a des gens qui y travaillent. Encore une fois, les humains sont géniaux. Je pense qu'ils vont trouver des solutions. Pour ce qui est des métaux rares, ça, c'est plus grave. Parce que les métaux rares, ils sont rares. Là ou ils sont pas là. Oui, ils sont rares, oui, justement. Et ça, c'est un problème important. Je ne sais pas comment on va s'en tirer. Et puis, ça pose des problèmes politiques parce que c'est les Chinois qui, aujourd'hui,
détiennent plus de 90%.
Donc, c'est un problème grave. Je pense pas qu'il soit sans solution. On verra, mais enfin, moi, je suis pas spécialiste de ces questions. Je peux pas beaucoup vous donner une opinion instruite sur ce sujet.
Vous ne pouvez pas être spécialiste de tout, même vous, Hubert Reeves. Une question qui vient de Mulhouse, d'une femme qui nous demande ce que vous pensez de l'exploitation des gaz de schiste, qui sont évidemment très controversés d'un point de vue écologique. Est-ce que vous faites une croix dessus en disant non? Pas question. Bon, alors, lorsqu'on interdit, on a raison de le faire.
La grande objection, c'est que ce sont des émissions de gaz carbonique. Aujourd'hui, on a intérêt à arrêter d'émettre le gaz carbonique. Sinon, on va atteindre des réchauffements climatiques qui vont atteindre des températures, des accroissements de températures élevés. Et déjà, on sait que là, ça se pose. Il faut arrêter d'émettre du gaz carbonique. Alors, le gaz de schiste, c'est comme le pétrole, c'est comme le charbon. Mm-hmm. La principale objection que j'y vois, c'est ça. C'est pas le domaine dans lequel il faut investir parce que on est menacé par ce domaine même. Alors, je sais pas comment, on parle aussi de beaucoup de dangers. Mmh. Là, c'est un combat assez scientifique que je connais pas bien. J'ai lu des choses dessus, mais encore une fois, je suis pas un spécialiste de la géologie des gaz de schiste.
En voilà une question finaute d'Olivier qui nous demande si on sait ce que représentent les émissions de CO2 dans le domaine de la recherche en astrophysique, c'est-à-dire les lancements de fusées, les calculs informatiques, etc. Est-ce qu'on connaît ce calcul? Et surtout, encore une fois, faut-il le faire? Est-ce que les essais qu'on fait là, par exemple, vous considérez que c'est dans la colonne des plus? Même si ça pollue, oui, mais ça nous emmène quelque part.
Bon, je crois que le mot simple, la règle simple, arrêter d'émettre du gaz carbonique. Ça, c'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes. Alors, quelle que soit la solution, le pétrole, maintenant, il faut le laisser en terre. Il faut le charbon aussi. Et il y a un élément très important qui, aujourd'hui, un événement qui s'appelle le désinvestissement. Le fait que des quantités d'univers, ça a commencé dans les universités américaines, à Stanford, où on a dit, ces universités ont des fonds de pension qui représentent de très grosses sommes. Ces sommes sont généralement investies dans des compagnies pétrolières. Ces compagnies aux États-Unis, en Angleterre, en Norvège, en Irlande, ont déjà commencé à retirer leurs fonds de ces compagnies pétrolières, justement pour arriver à ce qu'on arrête d'aller chercher le charbon. Là, le mot d'ordre, il est clair, c'est le plus vite possible arrêter d'émettre du gaz carbonique.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un lien entre écologie et, je ne vais pas dire capitalisme parce que c'est trop fort d'un côté comme de l'autre, mais en tout cas refus d'un capitalisme échevelé? Ça veut dire qu'il faut effectivement changer pas seulement ce que nous faisons, ce que nous mangeons, mais changer aussi notre mode de vie, notre manière de consommer. Est-ce qu'il faut changer tout ça, changer intégralement de paradigme, Hubert Reeves? chose.
On va y être obligé. Il est évident qu'aujourd'hui, nous dépensons beaucoup plus d'énergie que ce que nous pouvons. On dit qu'il faudrait 3 terres pour arriver à remplir les besoins énergétiques de tout le monde. C'est sûr que ça va arrêter. On va avoir une vie beaucoup plus austère. Comment on va s'y adapter, ça c'est une autre question. Mais si encore de la vie sur la Terre en 2100, vous êtes sûr que ça va être beaucoup plus austère. On peut vivre une vie austère, les êtres humains l'ont vécu pendant longtemps, mais ça c'est une réalité presque numérique, presque mathématique. On sait combien de gaz carbonique on produit, on sait maintenant qu'est-ce que ça va donner comme réchauffement, et puis ben c'est à nous de jouer. Et ça c'est l'élément important.
Vous, par exemple...
Les taxes carbone, toutes ces choses-là, c'est absolument essentiel. Ça va venir un jour ou l'autre, peut-être trop tard.
Quand on parle de vie austère, on peut imaginer effectivement ce que ça peut vouloir dire, à la fois sur nos déplacements, sur c'est notre ça. Consommation, c'est sur ça. Tout ça. Vous, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez changées, Hubert Reeves? Est-ce que vous avez eu une prise de conscience comme ça? Je ne vais pas vous demander si vous faites du vélo. Vous faites du vélo. Ben voilà, je n'osais pas vous le demander. Mais
oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, sérieusement, dans votre vie que vous avez changées aujourd'hui pour être plus en accord avec ce que vous dites?
Pas assez. Je sais bien que...
Comme nous tous, je pense.
Oui, je sais bien, je vois bien comment il y a des choses que je pourrais améliorer et que je devrais améliorer. Bon, moi, je suis sauvé par la cloche parce que dans quelques années, je serai plus là. Mais je vois bien...
Sauvé par le gong.
Oui. Mais je vois bien, j'ai des petits-enfants qui ont 6, 8, 10, 12 ans et je me fais du souci pour eux. Est-ce qu'ils vont arriver? La vie va être beaucoup plus difficile. Encore une fois, il faut essayer de voir est-ce qu'elle reste, que la Terre reste habitable. Je me répète souvent, ça doit être le mot d'ordre. La Terre doit rester habitable et agréable.
Et agréable, dites-vous chaque fois, effectivement. Parce que si c'est un enfer,
c'est
rime.
C'est un enfer, oui.
Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir.
Allez-y Gilles.
Bien, je voulais demander à Hubert Reeves son avis sur le phénomène d'explosion démographique que nous vivons. Qui va nous porter à un effectif de 10 milliards d'habitants ou 9,7 d'ici 2030. Ça, c'est pas une prophétie, ce sont des projections qui paraissent sérieuses de l'ONU.
Oui, je suis d'accord.
Est-ce que vous pensez qu'on peut, c'est une fatalité, qu'on n'y peut rien, ou au contraire, est-ce qu'on peut essayer d'enrayer, de freiner le phénomène, et si oui, comment?
Alors, la seule recette qui marche, c'est l'éducation des femmes. On s'aperçoit que les lieux, par exemple, ça a été le cas du sud-est asiatique, de l'Amérique du Sud, où les femmes vont à l'université, sont admises à l'université, on voit les taux de natalité tomber rapidement, des fois de 6-8, même dans quelques cas, comme en Chine, au Japon, à inférieur à ce qu'il faut pour maintenir la population. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'inquiètent qu'une possibilité, personne ne connaît l'avenir, une possibilité, c'est qu'on aille vers un maximum et qu'on redescende assez rapidement. Le Japon nous donne l'exemple cela, où ça devient un problème. Donc, c'est pas sûr que
pas aussi simple, en fait.
Voilà, c'est pas aussi simple parce qu'il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup d'éléments possibles. L'avenir est inconnu. Et la réalité a cette façon de nous surprendre souvent. Là où on pense que quelque chose doit forcément arriver, on s'aperçoit que ça n'arrive pas. Edgar Morin en parle souvent. Il parle justement du fait qu'un jeune homme ou une jeune fille qui vivait dans les années 30, l'avenir était bloqué pour lui. Qu'est-ce qu'il y avait devant lui? Le nazisme et le communisme. Aujourd'hui, le nazisme et le communisme, c'est résolu. On a d'autres problèmes.
Comme vous dites, on a d'autres problèmes quand même.
On a d'autres problèmes, bien sûr. Mais cette vision que l'avenir était bloqué, qu'il avait, dit-il, à cette période, finalement, ça s'est arrangé. Je crois que la réalité a plus d'imagination que nous. Et nous, il faut essayer de la guider, de la voir telle qu'elle est. La chose importante, c'est de voir la réalité telle qu'elle est et en même temps, de ne pas désespérer. Ça, c'est la tendance qui se présente très souvent dans la collapsologie, a un peu cette influence de désespérer, c'est-à-dire de désarçonner, démotiver. Voilà, il ne faut pas démotiver, il faut inspirer un véritable dynamisme pour dire la vie, la Terre doit rester habitable et agréable.
Voilà, ne désespérez pas Mia, puisqu'elle a 14 ans seulement, elle a beaucoup de temps devant elle. Bonsoir Mia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je m'appelle Mia et j'ai 14 ans. Je voulais juste savoir comment vous faites
pour concilier ces deux choses que j'adore et que j'admire, c'est-à-dire l'écologie et l'astrophysique. Et vu que je voulais faire mon stage à l'IAP, je me demandais juste comment c'était possible de faire le lien entre les deux.
Merci beaucoup pour cette très jolie question, Mia. Oui, comment si vous avez fait le lien?
Si vous voulez m'envoyer un mot, je pourrais essayer de vous guider.
Ah ben Mia, envoie un mot à Hubert Reeves, parce que s'il y a bien une recommandation, c'est celle-là. Et comment vous avez passé le pont entre astrophysicien et militant pour la biodiversité que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment il y a eu une prise de conscience ou est-ce que l'un a toujours été avec l'autre finalement?
Ça a été progressif. Quand j'étais étudiant, encore une fois, dans les années 60, ça allait bien. L'avenir était bien. On avait le nucléaire qui allait résoudre les problèmes. Ça n'est que progressivement que des gens ont réalisé que, comme on se développait très vite, on multipliait le nombre de voitures, là je parle des années 70-80, beaucoup de physiciens ont dit « Oui, mais tout ce gaz carbonique, qu'est-ce que ça peut faire ?» Au début, moi j'étais assez sceptique parce que ça me paraissait démesuré de penser que la Terre, c'est gros la Terre. Je pensais que c'était démesuré, mais ceux qui disaient ça avaient raison. Et la question s'est posée quand on est arrivé au fait que on voyait que la température augmentait. Et la question était de savoir, est-ce que la température augmente vraiment? Et est-ce que c'est la faute des hommes? C'est ça qui était le plus important. Est-ce que l'accroissement de la température est dû à l'activité humaine ou à des phénomènes naturels? Et là, les Nations Unies ont nommé un groupe qui s'appelle le GIEC.
Bien sûr.
De 3000 physiciens les meilleurs de la planète, pour étudier cela.
Et on a mis tellement longtemps à les croire, les gens du GIEC, ou en tout cas à les croire, oui, mais à prendre conscience que c'était vraiment très important. Est-ce que vous avez l'impression qu'un jeune astrophysicien aujourd'hui peut l'être comme vous l'étiez, au fond? Est-ce que cette prise de conscience aujourd'hui de tout le monde que du réchauffement climatique, des dangers qui nous guettent en matière d'environnement, est-ce qu'on peut aujourd'hui, au fond, être l'astrophysicien que vous étiez quand vous aviez 20 ans?
Bon, pardon, disons que je n'avais pas vraiment de raison de m'inquiéter. Dans cette période-là, on voyait pas, on n'était pas au courant de ce réchauffement. Ce n'est que progressivement qu'on en est. Les années critiques, ça a été 80, 90, 2000. Maintenant, c'est pratiquement admis. Vous ouvrez la télévision, on vous raconte les tempêtes, tout ça. Mais ça a été long. Il y a cette tentation qu'il y a, ce qu'on appelle de casser le thermomètre. Quand vous avez la fièvre, vous cassez le thermomètre.
Bien sûr.
Eh bien, ça, c'est...
Tirer sur le messager.
Oui, c'est ça. Mais maintenant, heureusement, cette réalité-là, dans beaucoup d'endroits du monde, pas partout. Moi, je m'inquiète de l'Afrique, par exemple, et du Maghreb. Il n'y a pas vraiment, d'après ce que je peux voir, de véritable... Mais j'espère que ça viendra.
Il nous reste très peu de temps, mais on a du temps pour votre question. Gilles, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur Reeves. Je voulais savoir si les galaxies naissaient encore.
Alors, apparemment pas. On a de bonnes raisons de penser que les galaxies sont nées assez tôt dans l'univers, dans le premier milliard d'années, comme l'univers a 14 milliards d'années. Maintenant, la science, vous savez, n'est jamais dans un rapport de vérité. À la lumière de ce que nous observons et des théories que nous faisons, il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas de galaxies qui naissent aujourd'hui. Mais...
Allez savoir, comme vous dites, on ne peut pas le savoir vraiment. Il y a la question d'Éléonore, on n'a pas le temps de la prendre, Éléonore, mais je vais prendre ma question dans ma voix parce que c'est drôle. Elle vous demande si vous croyez en l'astrologie et son impact sur les humains. Vous êtes quel signe, Hubert Reeves?
Ma réponse,
mais vous connaissez
non.
Votre signe ou pas?
Ah oui.
Et votre ascendant?
Oui, oui.
Ah, donc
je suis cancer, ascendant Verseau.
Voilà.
Mais je n'ai jamais été impressionné par les astrologues. J'ai souvent essayé de comprendre, mais ça m'a toujours paru pas très... crédible.
Allez, la tête dans la galaxie et les pieds sur terre aussi. Avant de se quitter, j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, Je chemine avec Hubert Reeves, c'est publié au Seuil. Un entretien mené avec Sophie L'Huillier, c'est un tout petit bouquin, mais c'est tellement agréable à lire. La Terre vue du cœur, Hubert Reeves, avec des photos absolument magnifiques. Il y a eu un film, il y a un DVD à l'intérieur du livre, il faut le dire aussi. Et puis, ce jeudi, le 21 novembre, vous êtes ici à la Maison de la Radio avec Mathieu Vidard et d'autres aussi au Studio 104. Alors, je vous le dis tout de suite, le Studio 104, c'est complet, mais on peut vous écouter aussi et vous voir dans les salles de cinéma. Et pour ça, si vous allez sur le site du 18-20, vous saurez où vous adresser. Comme ça, tout est bon. Merci beaucoup, Hubert Reeves.
Merci à vous.
Merci à tous pour vos nombreuses questions. Dans 3 minutes, ce sera Laura Adler sur France Inter. Il est 20h.